Ondine, deuxième partie, chapitre 8. Ondine parle des ondins. Les premiers rayons de soleil réveillèrent les jeunes époux. Huldebrand avait été pendant toute la nuit assailli de rêves étranges, où il voyait des fantômes qui ricanaient méchamment et se transformaient tour à tour, à ses yeux, en femmes merveilleuses et en dragons affreux. La vue d'Ondine, qui reposait paisiblement à son côté, lui rendit un peu de confiance et de calme. Il fit part cependant à sa femme des rêves mauvais qu'il avait eus. Mais elle acheva de le tranquilliser par un regard plein d'amour et de sérénité. Il se leva et alla rejoindre dans la salle commune les autres habitants de la cabane. Il lui sembla qu'ils avaient tous trois l'air inquiets et malheureux. Mais son apparition dérida tous les fronts, et chacun s'empressa auprès de lui avec des mots aimables et gais. Quand Ondine parut à son tour, de véritables acclamations l'accueillirent, tant son joli visage montrait de grâce et de pure beauté. Le prêtre s'avança le premier vers elle pour la bénir. Elle se mit à genoux devant lui et lui demanda pardon avec la plus touchante humilité des paroles un peu folles qu'elle avait prononcées la veille. Puis elle embrassa ses bons parents nourriciers, et pour leur marquer la vraie reconnaissance qu'elle leur gardait au fond de son cœur, elle leur dit « Chers et bien-aimés parents, je sens bien et profondément que vous avez entouré mon enfance de la plus exquise bonté. Je ne l'oublierai jamais. » Elle ne les laissa qu'après les avoir couverts de caresses. Et lorsqu'elle vit la bonne vieille se préoccuper du déjeuner, elle courut aussitôt près du feu, mit la table et se chargea elle-même de tout préparer. C'était toujours Ondine, avec sa mignonne et ravissante figure, mais avec une tout autre nature, une nature également charmante. Tout le jour, elle se montra ainsi, gentille, dévouée, pleine d'attention, pour tout le monde. Personne ne croyait que cela pût durer, mais l'Ondine espiègle, insouciante et légère, qui la veille encore se livrait aux caprices les plus exubérants, avait bel et bien disparu pour faire place à une nouvelle Ondine, sage et douce comme un ange. « Messire Chevalier, dit le prêtre à Huldebrand vers la fin de cette heureuse journée, c'est un véritable trésor que Dieu vous a donné là par l'entremise de son humble ministre. Conservez-le bien, et ce sera la source de toutes vos joies. » Le soir, Ondine, s'appuyant sur le bras de son époux, entraîna celui-ci dehors, du côté où le soleil couchant incendiait de vive lumière le feuillage des grands arbres. Ils marchèrent, côte à côte, sans rien dire, ou du moins sans exprimer autrement leurs pensées que par de longs regards, tout chargés d'amour. Peut-être s'ajoutait-il à cela dans les yeux d'Ondine une vague mélancolie, mais Huldebrand, tout à sa joie d'aimer et d'être aimé, ne s'en aperçut pas. Ils arrivèrent ainsi au torrent débordé, et le chevalier fut tout étonné de voir que les eaux, rentrées dans leur lit habituel, avaient repris leur cours régulier. « Demain, ce torrent qui mettait obstacle à ton départ sera de nouveau franchissable, » dit Ondine avec des larmes dans la voix. « Tu pourras donc reprendre ton chemin et quitter ce pauvre coin de terre perdu. » « Mais jamais sans toi, chère petite Ondine, » répliqua Huldebrand. « Pourquoi pleures-tu? Quelle injuste pensée traverse encore ton esprit? Nous sommes l'un à l'autre pour la vie. » « Qui sait ce que demain décidera, ce que tu décideras toi-même tout à l'heure ?» murmura Ondine avec tristesse. « Allons, il faut que je te dise de graves choses. Porte-moi là-bas, sur cette petite île. Je pourrai aisément traverser ces ondes tranquilles, mais je préfère que tu me portes, afin de reposer une fois encore, la dernière peut-être, dans tes bras, sur ton cœur. Allons. » Huldebrand, ému et troublé par ces paroles inattendues, ne répondit rien et se borna à faire exactement ce qu'Ondine lui demandait. Arrivé sur l'îlot, il déposa doucement sur l'herbe son cher fardeau. Maintenant, assieds-toi en face de moi, dit Ondine, que je puisse lire dans tes yeux avant même que tes lèvres ne me répondent. Écoute avec une grande attention ce que je vais te dire. Apprends, ami, qu'il existe dans le monde invisible qui enveloppe le monde où tu évolues, des êtres vivants dont l'existence se manifeste rarement aux hommes. Dans ces flammes se jouent les énigmatiques salamandres. Des gnomes malicieux peuplent les profondeurs de la terre. Les sylvains habitent les forêts. Les sylphes traversent sans cesse les airs. Et dans les mers, les lacs, les torrents, les ruisseaux, vit le peuple innombrable des ondins. Ceux-ci occupent de vastes palais de cristal, d'où ils voient le ciel, le soleil et les lumières de la nuit. Dans leurs jardins s'élèvent des arbres de corail chargés de fruits d'or. Un sable pur, tout parsemé de beaux coquillages, s'étend sous leurs pas. Les habitants de ces régions, que Dieu dérobe aux regards indignes des hommes, sont tous d'un aspect gracieux et beau. Les femmes surtout, ondoyantes comme les vagues parmi lesquelles elles se jouent, surpassent en beauté les êtres les plus privilégiés. Leur visage à la pureté, leurs yeux à la clarté du monde marin où elles vivent. Les pêcheurs, qui, à l'aube, ont eu la bonne fortune de voir une de ces filles des eaux, au moment où, pour chanter, elle émergeait de la blanche écume, ne perdront jamais le souvenir de cette prodigieuse apparition. On appelle ces femmes les ondines. Dois-je te dire, après cela, mon bien-aimé, que c'est une de ces ondines que tu vois en ce moment devant toi? Tandis qu'il écoutait l'étrange histoire de sa jeune épouse, Huldebrand cherchait à se persuader à lui-même qu'il n'y avait rien de vrai là-dedans, que ce n'était là, une fois de plus, qu'une mystification de la part de l'espiègle Ondine. Mais en même temps, un vague pressentiment le portait à croire qu'Ondine était sincère. Et alors, infiniment troublé, il regardait la conteuse sans savoir que répondre. « Nous devrions préférer notre existence à celle des autres humains, » reprit Ondine, « car notre vie est plus harmonieuse que la vôtre. Mais un abîme nous sépare de vous. Tandis que notre corps a été exalté par le Créateur, nous avons été privés de la plus douce des fortunes. Nous n'avons pas d'âme. L'élément qui nous fait vivre nous est seulement soumis tant que nous vivons. Il disperse jusqu'à nos traces dès que la mort a fait sur nous son œuvre d'anéantissement. Nous n'avons point d'âme. Alors qu'une vie nouvelle, plus sereine et plus enviable, sonne pour vous à l'heure de la déchéance de votre corps, nous et nos semblables, des autres éléments, nous sommes tout entiers anéantis par la mort, dès l'instant où son aile nous a touchés. Insouciants et heureux de vivre, nous sommes gais cependant, comme les oiseaux au clair soleil du printemps. Mais chacun aspire à plus qu'il ne possède. Mon père, un puissant prince de la Méditerranée, a voulu que sa fille unique acquitte une âme, fût-ce au prix des plus cruelles souffrances réservées généralement aux hommes doués de ce sentiment profond. Or, les ondines ne peuvent atteindre à ce but que grâce à l'amour d'un homme de la terre. Tu m'as aimé, tu m'aimes, j'ai désormais une âme, et c'est par toi qu'elle s'est révélée. Je te rends grâce, ô mon bien-aimé, et éternellement je te garderai la même reconnaissance, quel que soit l'avenir d'heure ou de malheur qui m'est réservé par toi. Maintenant que tu sais tout, que je me suis dépouillée à tes yeux de toute enveloppe de mensonges, maintenant aussi que tu connais et l'amour et la gratitude que je te garde, choisis, décide de nos deux destinées. Si tu veux qu'elles se poursuivent côte à côte, tu me verras, aimante et fidèle, près de toi. Si au contraire tu veux m'abandonner, me repousser, par crainte de mes origines étranges, je plongerai dans ce ruisseau, qui est mon oncle, et je retournerai vers mes frères, les ondins. Mes parents, le ruisseau, est puissant. C'est lui qui m'a conduite, légère et rieuse enfant, chez le vieux pêcheur. C'est lui qui me ramènera au mien. femme maintenant, douée d'une âme, connaissant l'amour et prête à connaître la souffrance. » Huldebrand, sur ces dernières paroles, saisit Ondine avec transport dans ses bras et lui prodigua toutes les marques de la plus vive affection. Mieux qu'aucune réponse, cet élan de son cœur vers la jeune femme témoignait de sa sincérité. Enfin, il dit qu'il la regarderait toujours comme sa femme adorée et que jamais il ne la délaisserait. Pleine d'une douce confiance, Ondine reprit le bras de son époux et le monde nouveau qui s'ouvrait devant elle lui parut infiniment plus délicieux que l'autre, celui où des palais de cristal s'élevaient entre des arbres de corail. Chapitre 9. Le chevalier part avec sa jeune femme. Huldebrand fut bien étonné le lendemain matin à son réveil en constatant qu'Ondine n'était plus à ses côtés. Il se laissait déjà reprendre par cette idée que son mariage et la gracieuse fille des ondes elle-même n'étaient que rêve et illusion, quand Ondine reparut et lui dit « Je suis sortie de bonne heure pour aller voir mon oncle le ruisseau. Il a tenu parole et ses eaux ont tout à fait repris leur cours paisible d'autrefois. D'ailleurs, toute la région a retrouvé son calme des beaux jours. Tu peux donc, quand tu voudras, reprendre le chemin de ton pays. » Quelques instants après, les deux époux se trouvaient sur le seuil de la chaumière. Et devant le beau paysage qui s'étendait devant eux, Huldebrand, songeant à ce berceau de son amour, ne put s'empêcher de dire « Pourquoi nous hâter de partir? Cet endroit est charmant, et nous ne connaîtrons peut-être plus, ailleurs, des jours de douce solitude comparables à ceux que nous passons ici. Qu'il nous soit donné au moins de revoir deux ou trois fois le soleil se coucher sur ce paysage ami. « Que la volonté de mon seigneur et maître soit faite !» répondit Ondine souriante. « Mais je pense aux deux bons vieillards qui ont été ici mes parents nourriciers. Ils vont avoir beaucoup de peine en apprenant notre départ, et je ne saurais peut-être pas leur cacher suffisamment que mon amour, en m'attachant à toi, m'a bien détaché d'eux. J'aime mieux aussi qu'ils ignorent mon âme nouvelle. Le souvenir qu'ils garderont de moi sera plus léger, la séparation entre nous moins cruelle. Tels qu'ils m'ont connu, un oiseau, une fleur me remplaceront peut-être. C'est pour toutes ces raisons que je serai heureuse de voir abréger le moment pénible du départ. » Le chevalier comprit ces raisons. Il alla trouver le vieux pêcheur et sa bonne femme et leur parla avec bonté. Puis Ondine et lui, accompagnés du moine, prirent congé d'eux. L'adieu fut marqué d'affection et de reconnaissance de la part de chacun. Ondine surtout embrassa ses parents adoptifs avec la plus grande tendresse et leur dit de bonnes paroles, d'une voix pleine de larmes. Puis Huldebrand aida son épouse à se placer sur le cheval, dont il saisit la bride, tandis que le prêtre marchait de l'autre côté. Et l'on se mit en route. Les deux bons vieillards, qui sanglotaient sur le seuil de leur maisonnette vide, répondirent aussi longtemps qu'ils purent aux gestes gracieux de leur Ondine. Et puis un silence triste se mit à peser autour d'eux sur la presqu'île qui leur parut toute changée. Les trois voyageurs arrivèrent bientôt sous les ombrages touffus de la forêt. Ondine était plus ravissante que jamais sur son noble coursier. Le prêtre paraissait grave dans sa robe austère de moine. Huldebrand, ceint de son épée, la plume hardiment plantée dans le chapeau, était le chevalier intrépide. Ondine et lui ne cessaient de se regarder, de s'admirer l'un l'autre. Au bout d'un certain temps, ils s'aperçurent avec surprise que le moine était en grande conversation avec un quatrième personnage, venu il ne savait d'où, et qui s'était joint mystérieusement à eux. Ce personnage portait une longue robe blanche aux plis flottants. Son aspect était imposant, quoique étrange. Au moment où les deux jeunes gens les remarquèrent, il disait au prêtre « Je vis depuis longtemps dans cette forêt, digne seigneur, sans être pourtant un ermite, au sens où vous entendez ce mot. Je ne suis pas ici par esprit de pénitence. J'aime la forêt parce qu'elle me semble tout particulièrement belle et que j'ai plaisir à me promener, dans mes vêtements qui ondoient, sous les arceaux légers qui traversent, tels des flèches d'or, les rayons du soleil. Le soleil est de mes amis. Il joue volontiers parmi les reflets chatoyants de ma robe d'argent. « Vous êtes un homme tout à fait étrange, » répondit le moine. « Mais vous-même, qui êtes-vous donc ? » demanda l'étranger. « Je suis le père Heilmann, » dit le prêtre, « et je viens du couvent de la Salutation, qui est situé de l'autre côté du grand lac. »« Moi, » répondit l'homme à la robe flottante, « je m'appelle Kühleborn, le sire de Kühleborn. » voire même le baron de Kühleborn, car si le mot baron signifie homme libre, il est vraiment fait pour moi, nul n'étant plus libre que moi sur cette terre. À propos, il faut que je dise un mot à cette jeune femme. » Et brusquement, l'étranger se trouva à côté d'Ondine. Il parut quitter le sol pour atteindre au visage de la jeune femme et lui parler à l'oreille. Mais Ondine se détourna de lui, tout effrayée, en disant « Je n'ai plus rien de commun avec vous. » « Oh, quelle grande dame vous faites !» riposta en riant le sire de Kühleborn. « Ne connaissez-vous plus vos parents ? Faut-il vous rappeler que c'est l'oncle Kühleborn qui vous a gentiment amené dans cette contrée ?»« Je vous en prie, » insista Ondine. « Éloignez-vous, mon oncle. Que pensera mon mari en me voyant en si singulière compagnie ?» « Ma chère petite nièce, » répondit Kühleborn, « vous savez bien que je suis ici pour votre défense. Sans moi, les gnomes malicieux pourraient vous jouer quelque vilain tour. Laissez-moi donc vous accompagner, vous servir de protecteur. Le vieux prêtre que voici m'a accueilli plus aimablement. Il m'a dit que mon visage ne lui était pas inconnu. Et en effet, j'étais la vague qui l'entraîna dans le lac et le porta ensuite sous les arbres de la presqu'île, près de la chaumière, afin qu'il pût bénir ton mariage. » Mais Ondine dit encore à Kühleborn, « Je vous en prie, mon oncle, n'insistez pas, retirez-vous. Voici que j'aperçois la fin de la forêt. Nous n'avons donc plus besoin de vous. Laissez-nous continuer en paix notre chemin. » Ces paroles eurent le don de déplaire à maître Kühleborn, qui ne cacha pas sa mauvaise humeur, et lança à sa jeune nièce un coup d'œil significatif. Ondine, effrayée, poussa un cri et appela son époux à sa défense. Le chevalier s'élança aussitôt, l'épée haute, pour frapper Kühleborn. Mais l'arme, en s'abaissant, ne rencontra qu'une trombe d'eau qui s'abattit sur les voyageurs et les inonda de la tête aux pieds. En même temps, d'un rocher voisin, une belle cascade se mit à jaillir, dont les eaux, en bondissant gaiement sur la pierre, imitaient le bruit de petits rires ironiques. Le moine, comme s'il sortait d'un rêve, dit alors « Il y avait un moment déjà que je voyais cette cascade près de nous. J'ai même cru tout d'abord que c'était un homme, et que cet homme nous parlait. » Huldbrand allait répondre quand, de la cascade, lui parvinrent très nettement ces paroles. « Beau chevalier, noble et courageux, tu fais ton devoir, et je ne saurais t'en vouloir. Protège toujours ainsi ton épouse, sois toujours son fidèle chevalier. » Encore quelques pas, et les voyageurs se trouvèrent hors de la forêt. La ville leur apparut alors. Ses tours et ses clochers, dressés vers le ciel magnifique, étincelait dans la lumière du soleil couchant. Chapitre 10. À la ville. La disparition du jeune chevalier Huldbrand de Ringstetten avait soulevé une grosse émotion par toute la ville. Tous ceux, et ils étaient nombreux, qui avaient eu l'occasion d'apprécier les fines et nobles qualités du jeune homme, regrettaient qu'une folle audace l'eût entraîné dans une aventure pleine de mystères, et ressentait les plus grandes inquiétudes sur son sort. Ses serviteurs ne savaient quel parti prendre. Ils n'osaient regagner seuls le château de leur maître, et moins encore pénétrer dans la forêt maudite pour y faire des recherches. Lorsque, bientôt après sa disparition, on apprit quelles tempêtes et quelles inondations avaient dévasté la région où il s'était engagé, il se trouva bon nombre de personnes pour conclure à la mort du pauvre chevalier. Bertalda ne se cacha pas pour le pleurer, et quand ses parents adoptifs, le duc et la duchesse, vinrent la chercher à la ville pour la reconduire chez eux, dans un château lointain, elle les décida à rester avec elle jusqu'à ce qu'on eût reçu des nouvelles certaines de Huldebrand, dont il fallait au moins, disait-elle, qu'on retrouvât le corps. Elle essaya de pousser quelques chevaliers, assidus auprès d'elle, à entreprendre des recherches dans la forêt. Mais elle ne comptait point en retour promettre sa main à aucun d'eux, sans doute parce que tout espoir de revoir Huldebrand vivant n'était pas encore perdu pour elle. Et pour gants et rubans, voire pour un baiser, personne ne consentit à risquer sa vie au service d'un rival si redoutable. Lors donc que Huldebrand reparut inopinément, ses serviteurs et les habitants de la ville en témoignèrent une grande joie. Bertalda fut peut-être la seule à ne pas se réjouir, mais le fait est que son visage, triste depuis longtemps, s'assombrit davantage encore. La raison en était que le chevalier ne revenait pas seul, qu'une femme d'une délicieuse beauté l'accompagnait, et qu'un prêtre, témoin de leur mariage, suivait ce couple heureux. Bertalda, prise entre un amour véritable et qu'elle avait déjà ouvertement avoué à tous, et la nécessité de faire face à des circonstances nouvelles, s'acquitta fort habilement de cette tâche délicate. Elle accueillit Ondine de la manière la plus aimable et montra à Huldebrand des sentiments vagues où dominait une indifférence affectée. Ondine passa bientôt pour une princesse merveilleuse, délivrée par Huldebrand de quelques mauvais enchantements dans la forêt maudite. Quand on l'interrogeait elle-même sur son origine, un mot ou deux lui suffisaient à éluder fort adroitement la question. Le chevalier, de son côté, ne disait que ce qu'il voulait bien dire, et quant au père Eilman, il avait presque immédiatement quitté la ville pour regagner son couvent. Si bien que les gens durent se contenter de leurs hypothèses. Bertalda elle-même en fut réduite à ses imaginations. Ondine l'aimait cependant beaucoup et se sentait attirée vers elle. « Je ne sais pas quel sentiment secret me pousse vers vous, » disait-elle parfois à sa nouvelle amie. « Mais dès que je vous ai vue, je vous ai aimée. On dirait qu'un lien mystérieux, quelque chose comme un souvenir, nous unit. » Quant à Bertalda, elle constatait avec surprise la sympathie qui l'entraînait vers une femme qu'elle eût dû haïr, puisque cette heureuse rivale lui avait ravi le cœur du chevalier. Cette amitié réciproque fut cause que le jeune couple prolongea son séjour au château. Ondine invita même Bertalda à venir passer quelques semaines au manoir de Rigsten, qui s'élevait non loin des sources du Danube. Par une douce soirée d'automne, le chevalier et les deux amis se promenaient sur la grande place de la ville, à la lueur tranquille des étoiles. Ils causaient, gaiement, s'arrêtant parfois pour admirer une antique fontaine qui occupait le milieu de la place. Ils écoutaient le murmure captivant des eaux jaillissantes, que troublaient seuls les pas des autres promeneurs et le rire clair d'une bande d'enfants. À travers le rideau sombre des grands arbres, ils apercevaient les lumières des maisons voisines. Ils se sentaient comme isolés au milieu de la ville, inondés de la joie sereine et calme que la nuit répandait autour d'eux. Ils causaient du prochain départ, du voyage qu'ils comptaient bien faire à eux trois. Les objections élevées par les parents adoptifs de Bertalda leur semblaient incompréhensibles. Au moment où ils allaient fixer le jour du départ, un homme de haute taille, traversant la place, s'avança vers eux et, saluant courtoisement Ondine, lui glissa quelques phrases à l'oreille. Une vive contrariété se peignit sur les traits de la jeune femme, mais, devançant ses compagnons, elle fit quelques pas avec l'étranger. On les entendit causer à voix basse dans une langue inconnue. Huldebrand, frappé par un souvenir imprécis, considérait attentivement le nouveau venu. Perdu dans ses pensées, il n'entendit même pas une question que lui adressait Bertalda. Soudain, Ondine se mit à rire en battant joyeusement des mains, puis revint auprès de son mari, tandis que l'étranger s'éloignait rapidement en hochant la tête d'un air fort mécontent. Arrivé près de la fontaine, il disparut subitement, comme s'il fût entré dedans. Alors seulement, Huldebrand eut la certitude que son souvenir ne l'avait point trompé. Mais déjà Bertalda s'écriait « Que te disait donc ce maître fontainier ?» Le visage d'Ondine reflétait la joie la plus vive quand elle répondit avec un sourire « Tu sauras cela après-demain, quand nous célébrerons le jour de ta fête, chère Bertalda. » Elle ne voulut pas donner de plus amples explications et termina l'entretien en invitant son amie à prendre part, ainsi que ses parents adoptifs, à un grand festin qu'elle offrait le surlendemain. « C'était bien Kühleborn ?» demanda anxieusement Huldebrand à sa jeune femme dès qu'ils eurent quitté Bertalda. Ils marchaient lentement dans les rues de la ville, où la nuit se faisait plus douce. « Oui, » dit Ondine, « c'était lui. Il me racontait toutes sortes d'histoires absurdes, au milieu desquelles, sans le vouloir, il a laissé échapper un secret qu'il n'avait pas l'intention de me révéler et qui pourtant me rend bien heureuse. Si tu veux le connaître à l'instant, mon doux seigneur, tu seras obéi. Mais si tu veux me faire un grand plaisir, tu attendras jusqu'à après-demain. Tu verras quelle jolie surprise vous attend tous. » Le chevalier n'eut garde de refuser à sa belle épouse ce qu'elle lui demandait si gentiment. Quelques instants plus tard, Ondine, sur le point de s'endormir, se redisait tout bas avec un sourire de bonheur « Comme elle sera heureuse, ma chère Bertalda, quand elle connaîtra la nouvelle apportée par son maître fontainier. » Chapitre 11. La fête de Bertalda. Au milieu d'une nombreuse assemblée de convives, Bertalda, parée des bijoux qu'on venait de lui offrir, trônait au haut bout de la table, entre Ondine et Huldebrand. On eût dit la déesse du printemps. Lorsque la fin du repas approcha, on ouvra toutes grandes les portes de la salle, suivant l'antique coutume du pays, afin que les gens du peuple pussent prendre leur part de la fête. Des serviteurs offrirent aux nouveaux venus des rafraîchissements et des pâtisseries. Huldebrand et Bertalda, impatients de percer enfin le mystère qu'Ondine avait promis de dévoiler, ne quittaient point des yeux la jeune femme, qui, émue et souriante, s'efforçait de contenir le secret qu'elle semblait à tout instant sur le point de trahir. Ainsi que les enfants reculent le moment où ils mangeront le gâteau qui excite leur convoitise, ainsi la jeune mariée semblait vouloir jouir plus longtemps d'une attente délicieuse. Huldebrand et Bertalda, pleins d'émotion, ne l'interrogeaient point, attendant que, d'elle-même, elle leur révélât le bonheur qui devait se répandre sur eux comme une rosée céleste. Enfin, quelques-uns des convives ayant prié Ondine de leur chanter une mélodie du pays, la jeune femme fit apporter sa harpe et se mit à chanter. Par une claire matinée, les fleurs aux mille couleurs, les herbes enivrantes se balancent sur la rive du lac argenté. Que vois-je parmi les fleurs briller d'un éclat si pur? On dirait un beau lys blanc tombé du ciel sur la prairie. Non, c'est une mignonne fillette qui joue dans l'herbe haute. Sont-ce les rayons d'or que reflète le lac? Oh, gracieux enfant, qui t'attire ainsi? Le lac berceur s'empare de toi. Hélas, pourquoi maintenant tendre ainsi tes mains vers le rivage? Aucune main n'ira vers toi. Loin du cœur maternel, tu vas perdre ta vie dans un sourire. Mais un noble duc chevauche le long du bord et retient son coursier. Il te prend dans ses bras, t'emmène en son château et t'élève comme sa fille. Tu grandis, belle et pure, tu brilles entre toutes. Mais, hélas, le bien le plus précieux, tu l'as laissé au lointain rivage. » Les parents adoptifs de Bertalda ne purent contenir leur émotion. Le duc, se levant, dit alors à Bertalda « C'est ainsi que les choses se sont passées, pauvre orpheline, quand je te retirai du lac. Mais Ondine a raison, nous ne pouvions te rendre le plus précieux des biens. » « Écoutez, écoutez !» reprit Ondine. « Voici ce qui est arrivé aux pauvres parents. » La mère entre dans les chambres, vide tous les tiroirs, puis les remplit. Elle gémit, elle appelle et rien ne lui répond. La maison vide, hélas! Quelle sombre parole pour celle qui eut un doux enfant, qu'elle berçait la nuit, qu'elle suivait le jour. Pauvre mère, cesse de chercher ce que tu aimes, t'es ravie pour toujours. Et quand le soir souffle le vent et que le père, là, revient à son foyer, il voudrait te sourire, mais ses yeux n'ont que des larmes, car le père sait bien. Quand sa triste demeure, règne le froid silence que troublent seuls les sanglots d'une femme. L'enfant ne sourit plus en lui tendant les bras.
« Ondine, au nom du ciel, dis-moi où sont mes parents !»
s'écria Bertalda en pleurant.
« Oui, tu le sais, car tu ne me déchirerais pas le cœur, si tu ne pouvais en même temps me consoler. Peut-être sont-ils ici ? Serait-ce... »
Elle embrassa d'un regard la noble assemblée et ses yeux s'arrêtèrent sur une princesse placée à côté de son père adoptif. Alors, Ondine, versant des larmes de bonheur, se tourna vers les serviteurs.
« Faites entrer, dit-elle, les pauvres parents qui se consument dans l'attente. »
On vit alors le vieux pêcheur et sa femme, tout tremblant, s'avancer vers Ondine, qui, d'un geste attendri, leur désigna Bertalda. Les deux braves gens se jetèrent en pleurant de joie au cou de la belle jeune fille, qu'on disait être leur enfant chéri. Mais Bertalda les repoussa, les yeux pleins de colère. C'en était trop pour cette nature orgueilleuse. Déjà, elle se flattait d'appartenir à une illustre famille. Elle se voyait montant les marches d'un trône. Et voilà qu'on lui découvrait une origine si humble que son cœur frémissait d'indignation. Persuadée qu'Ondine avait inventé cette histoire ridicule pour l'humilier devant toute l'assemblée, elle se redressa, couvrant d'injures Ondine et les deux vieillards. La pauvre mère ainsi repoussée ne put que balbutier. « Hélas, hélas, comme son cœur est devenu méchant! Et pourtant, je le sens, c'est mon enfant !» Quant au pêcheur, il s'était jeté à genoux en suppliant le Seigneur que cette fille ne fût pas la sienne. Ondine, pâle et chancelante, considérait en silence cette scène pénible. Son beau rêve était brisé. Sa joie faisait place à un immense désespoir. Enfin, elle se dirigea vers son amie en disant « N'as-tu donc pas d'âme, Bertalda ? N'as-tu pas d'âme ?» La pauvre enfant s'imaginait que cette question rendrait Bertalda à elle-même en la tirant de cet accès de fureur qui semblait une crise de folie. Mais la jeune fille, en proie à une rage terrible, l'invectivait de plus belle. Les convives commençaient à murmurer, les uns prenant son parti, les autres blâmant la dureté de son cœur. Au milieu du tumulte grandissant, la voix d'Ondine se fit entendre. La jeune femme réclama le droit de parler dans les appartements de son mari. Son noble maintien, sa dignité douloureuse en imposèrent aux invités. Un grand silence se fit.
Vous tous qui assistez à une fête que je voulais si belle, dit Ondine, soyez assurés que mon cœur ne connaissait point les mœurs insensées des hommes et leurs âmes perverses. Jamais, sans doute, je ne pourrai m'y accoutumer. Si mon entreprise échoue, hélas, pitoyablement, ne vous en prenez pas à moi. Je n'ai voulu que le bonheur d'une amie. Je ne me défendrai donc point. Mais ce que je puis vous affirmer, c'est que je n'ai point menti. Je ne puis, ni ne daigne, vous en donner des preuves. Ma parole doit vous suffire. Celui qui m'a révélé l'origine de Bertalda est l'homme qui, jadis, la ravit à ses parents en la tirant dans le lac, et qui ensuite l'a portée sur le passage du duc.
« Tu n'es qu'une sorcière !» hurla Bertalda.
Tu entretiens un mystérieux commerce avec les esprits malfaisants et les démons. »
Non, reprit Ondine avec force. Il suffit de me voir et de m'entendre pour me croire innocente.
Mensonge, infamie, comment osez-vous prétendre que je sois l'enfant de ces misérables gens? Oh, mes chers parents adoptifs, emmenez-moi loin de cette demeure maudite où l'on m'accable de honte.
Le duc, pensif, se taisait. Sa femme dit alors,
« Il faut que cette affaire s'éclaircisse. Je jure devant Dieu de ne point sortir d'ici tant que la vérité ne sera pas établie. »
« Noble dame, dit la vieille femme en s'avançant, votre bonté et votre justice m'encouragent à vous parler. Si cette méchante demoiselle est ma fille, elle porte sur une épaule un petit signe semblable à une violette et un autre près de la cheville, qu'elle consente seulement à me suivre un moment dans la pièce voisine.
« Me déshabiller devant cette paysanne? Jamais !»
fit dédaigneusement Bertalda en lui tournant le dos.
« Vous le ferez donc devant moi, » reprit gravement la duchesse. « Suivez-moi, mon enfant, et vous aussi, ma bonne femme. »
Les trois femmes sortirent pour reparaître, un instant après, au milieu d'un silence impressionnant. Bertalda était pâle comme une morte.
« Je déclare ici, » dit à voix haute la duchesse, « que très haute et puissante dame de Rixtenten a dit la vérité. Bertalda est bien la fille du pêcheur. Nous n'avons rien de plus à vous dire. »
L'assemblée se dispersa en commentant l'événement, tandis que le duc et la duchesse, suivis de la jeune fille et de ses parents, regagnaient leur château. Ondine se jeta dans les bras de son époux et pleura longtemps. Chapitre 12. Comment les jeunes époux quittèrent la ville. Le chevalier de Rixtenten était fort contrarié de cet événement imprévu, mais il ne pouvait qu'admirer la bonté de sa belle Ondine. « Il se peut, pensait-il, que je lui ai donné une âme, mais comme cette âme charmante est plus noble que la mienne !» Son plus cher souci fut donc de consoler celle qu'il aimait. Il résolut de l'emmener chez lui sans plus tarder. L'opinion pourtant se montrait favorable à Ondine. Tous ceux qui avaient assisté à la scène blâmaient hautement la dureté de Bertalda. Mais cela aussi peinait la douce jeune femme. Le lendemain, un carrosse attendait Ondine devant l'hôtellerie. Au moment où le chevalier parut, tenant par la main sa belle épouse, une jeune pêcheuse s'avança vers eux pour leur offrir sa marchandise.
« Nous n'avons besoin de rien, » dit Huldebrand en l'écartant doucement. « Nous quittons à l'instant ce pays. »
La jeune fille s'étant mise à pleurer, les voyageurs, surpris, la regardèrent plus attentivement et reconnurent Bertalda. Aussitôt, ils rentrèrent avec elle dans leurs appartements et apprirent de sa bouche comment le duc et la duchesse, indignés de sa conduite, l'avaient abandonnée, non sans lui assurer une riche dot.
« Ne sachant que devenir, continua la jeune fille, je cherchais, pour les suivre chez eux, ces vieux pêcheurs que l'on prétend être mes parents. »
« Ils le sont véritablement, Bertalda. Je le tiens de celui que tu pris pour un maître fontainier. Il voulait à toute force m'empêcher de t'emmener avec nous, et au milieu de ses exhortations, il m'a involontairement livré son secret.
Cet homme, ou plutôt mon père, puisque vous affirmez qu'il l'est, m'a repoussé en disant « Tant que ton cœur ne sera pas changé, nous ne voulons pas de toi. Pour te donner maintenant notre affection, j'exige de toi l'épreuve suivante. Tu traverseras seule la forêt hantée, vêtue non comme une princesse, mais comme la fille de pauvres pêcheurs.
Je n'ai qu'à m'incliner devant sa volonté, étant désormais seule au monde. Je vivrai humble et solitaire dans la chaumière de mes parents. Ce qui me cause une épouvante sans nom, c'est l'obligation de traverser la forêt redoutable, moi qui tremble au moindre danger. Mais je ne viens pas à vous pour me plaindre. Je suis ici pour implorer votre pardon, noble dame de Rixtenten. Je comprends maintenant que vous ne vouliez que mon bonheur, et je regrette les paroles blessantes que, dans ma colère et mon dépit, j'ai proférées contre vous. Pardon, pardon, je suis si malheureuse, si punie. Songez à ce que j'étais hier, avant ce fatal repas de fête, et voyez où je suis tombée. » Les sanglots l'interrompirent, mais Ondine la prit tendrement dans ses bras, et mêlant ses larmes à celles de la jeune fille, répondit. « Tu viendras à Ringstetten avec nous. Rien ne doit être changé à ce que nous avions décidé. Je te défends seulement de m'appeler noble dame. Je reste ton amie fidèle. Dès mon enfance, j'ai pris ta place. Nos destinées ne se doivent point séparer. Viens avec moi. Nous nous aimerons comme deux sœurs. » Bertalda leva timidement ses beaux yeux vers Huldebrand, qui, tout ému de compassion, acquiesça au désir de sa femme. Il engagea la jeune fille à les accompagner, en lui promettant de faire savoir au vieux pêcheur pourquoi elle ne les avait pas rejoints. Offrant sa main à Bertalda, pour la faire monter dans le carrosse, il l'y installa aux côtés d'Ondine, puis sauta en selle. Les voyageurs s'éloignèrent rapidement. Peu à peu, la tristesse fit place à une douce joie. Les jeunes voyageuses admiraient les riches contrées qu'elles traversaient. Au bout de quelques jours, on vit apparaître le château de Ringstetten, où l'on débarqua par une radieuse journée. Le soir même, Ondine et Bertalda, laissant le chevalier en conversation avec ses intendants, gravirent un petit tertre qui dominait le parc. Elles admiraient le magnifique paysage qu'étalaient sous leurs yeux les riantes vallées de la Souabe. Lorsqu'un homme, de haute taille, s'approchant d'elles, les salua profondément. Bertalda tressaillit, croyant reconnaître le maître fontainier, cause de ses malheurs. Elle ne douta plus que ce ne fût bien lui, lorsqu'elle le vit, sur un geste mécontent d'Ondine, s'éloigner à grands pas, en hochant la tête d'un air soucieux, exactement comme l'autre fois. « Ne crains rien, ma chérie, » dit Ondine. « Désormais, il ne pourra pas te faire de mal. » Alors elle se mit à lui raconter sa propre histoire, expliquant comment Bertalda, jadis, avait été ravie à ses parents, et comment elle, Ondine, avait été conduite chez les vieux pêcheurs. Bertalda l'écouta d'abord avec terreur, pensant que son amie venait de perdre soudain la raison. Mais peu à peu, frappée par la coïncidence de tous ces événements, elle se rendit à l'évidence. Un sentiment obscur lui disait que ce récit, pour étrange qu'il fût, était bien la vérité. À la fois fière de vivre au milieu d'aventures fabuleuses et troublée par le mystère qui entourait Ondine, elle se sentait attirée vers la jeune femme et un peu effrayée de ses révélations étranges. Au dîner, elle s'étonna de voir les attentions dont Huldebrand entourait sa jeune femme. Elle se demandait comment il pouvait être aussi épris d'une créature charmante à la vérité, mais qui lui semblait à présent moins une femme qu'un gracieux fantôme. Chapitre 13. Comment ont vécu au château de Ringstetten. Passons rapidement sur les premières années qui s'écoulèrent au château. Il serait certes plus conforme aux règles de l'art de montrer comment, peu à peu, l'amour d'Huldebrand pour Ondine s'affaiblit pour se reporter sur Bertalda. Nous nous contenterons pourtant d'en arriver au fait et de dire que la passion du chevalier pour la jeune fille fut récompensée d'un amour égal. Tous deux considéraient maintenant la pauvre Ondine comme un être étranger à leur race. Les larmes de l'infortunée leur inspiraient une crainte vague, mais point de pitié. Parfois, le chevalier semblait éprouver un remords, mais l'ancien amour ne pouvait se réveiller. Il frissonnait à la vue de sa femme, s'efforçait de se montrer affectueux, mais il ne trouvait le repos du cœur qu'auprès de Bertalda, comme lui, enfant des hommes. L'auteur, qui a traversé des épreuves cruelles, ne veut pas, en vous racontant les tristesses de l'abandon, réveiller ses propres souvenirs mal assoupis.
Mais revenons au château de Ringstetten. Si Ondine vivait dans la douleur, les deux autres n'étaient certes pas plus heureux, car celui qui cause les tourments est encore plus à plaindre que celui qui les subit. Bertalda s'aigrissait de plus en plus, croyant voir une revanche jalouse de la femme outragée dans la plus légère contradiction d'Ondine. Elle montrait à tous un air impérieux et dur, imposant ses caprices que la jeune femme devait subir, parce que le chevalier donnait toujours raison à celle qu'il aimait. Ce qui jetait le désarroi dans le cœur des deux complices, c'était le nombre des apparitions qu'ils rencontraient dans les sombres couloirs du château. Ils reconnaissaient Kühleborn dans cet homme de haute taille qui leur barrait souvent le chemin d'un air si menaçant que plusieurs fois Bertalda s'était évanouie de terreur. Mais ils se rassuraient en songeant à l'innocence d'un amour que ni l'un ni l'autre n'avait jamais déclaré. D'ailleurs, si la jeune fille quittait le château, où irait-elle? Le chevalier avait, selon sa promesse, envoyé un messager au père de Bertalda. La réponse du vieux pêcheur, confuse et difficile à lire, semblait contenir un blâme, un avertissement troublant. « Me voilà seule désormais, disait-il. Ma chère femme est morte. Bertalda est mieux auprès de vous que dans ma chaumière désolée. Mais si jamais elle fait le moindre mal à ma chère Ondine, je la maudis. » La jeune fille n'accorda aucune attention à la menace, ne retenant que la permission tant désirée de se fixer au château de Ringstetten. Or, un matin, comme Huldebrand venait de sortir à cheval, Ondine appela les serviteurs et leur commanda de boucher avec une énorme pierre un grand puits situé au milieu de la cour du château. Étonnés, les serviteurs lui firent observer respectueusement que ce serait bien incommode de ne plus se servir du puits, car il faudrait chercher l'eau très loin, tout au fond du vallon. « Mes braves amis, répondit la jeune femme avec un triste sourire, je suis désolée de vous imposer ce surcroît de fatigue, mais il est indispensable de condamner ce puits. Croyez en ma parole, c'est le seul moyen d'éviter un grand malheur. » Touchés de la douceur de leur jeune maîtresse qu'ils adoraient, les serviteurs n'ajoutèrent pas une parole et s'empressèrent d'exécuter ses ordres. Déjà, ils soulevaient un gros quartier de roches pour l'élever jusqu'à la margelle du puits lorsqu'ils virent accourir Bertalda. Elle leur ordonna de cesser sur-le-champ leur travail, déclarant que l'eau de ce puits possédait une pureté incomparable, qu'elle s'en servait pour sa toilette et que seule cette eau pouvait conserver la blancheur de son teint. Mais cette fois, Ondine ne s'inclina pas devant la volonté de Bertalda. Elle répondit, d'un ton doux quoique ferme, qu'elle était seule maîtresse en sa demeure et ne devait de compte qu'à son époux et seigneur. « Voyez, voyez !» s'écria la jeune fille avec colère. « Cette eau transparente s'agite, moutonne et s'enfle. On dirait qu'elle a compris qu'on allait lui dérober les chauds et clairs rayons du soleil et la priver de ce pourquoi elle a été créée. Refléter joyeusement les visages humains. » En effet, l'eau grondait et bouillonnait au fond du puits, comme si quelque chose eût voulu en jaillir. Ondine réitéra plus énergiquement son ordre. Mais déjà les serviteurs, heureux de lui être agréables et de désobéir à l'impérieuse Bertalda, avaient soulevé la pierre et la déposaient sur l'orifice du puits. Dès que ce fut fait, Ondine se pencha sur la pierre et y traça avec son doigt quelques signes. Lorsqu'elle s'éloigna, les serviteurs s'approchèrent et se demandèrent avec surprise de quel instrument aiguisé elle avait bien pu se servir pour tracer ces signes étranges qui ne se trouvaient pas auparavant sur la pierre. Le soir, Bertalda attendit le retour du chevalier pour se plaindre en pleurant du procédé d'Ondine. Huldebrand jeta un regard courroucé sur la jeune femme qui baissa tristement la tête. « Mon cher seigneur, ne blâmerait pas le dernier de ses sujets sans avoir entendu sa défense. Voudrait-il faire moins pour sa propre épouse » dit-elle.
Eh bien, parle donc, et dis-nous pourquoi tu as agi ainsi.
Je voudrais te le dire sans témoin.
Ne peux-tu donc pas parler devant Bertalda?
Si tu me l'ordonnes, j'obéirai, mais je t'en supplie, ne fais pas cela.
Elle prononça ces mots d'un ton si humble, si soumis, que le cœur d'Huldbrand tressaillit de pitié et s'émut au souvenir de l'ancien amour. Il prit tendrement sa femme par la main et l'emmena dans son appartement.
« Tu te rappelles, mon oncle Kühleborn ? » dit alors Ondine. « Je crois même que tu t'irrites de le rencontrer parfois dans ce château, et Bertalda elle-même en est souvent effrayée. Tu sais qu'il n'a pas d'âme et qu'il ne comprend pas les choses de la même manière que nous. Mais il m'aime. Il s'obstine malgré moi à veiller sur mon bonheur. Il sait que parfois tu me parles avec sévérité. Alors je verse des larmes de douleur, tandis que Bertalda semble satisfaite. Cela lui met dans la tête mille pensées absurdes. Il se croit obligé de se mêler sans cesse à notre existence. J'essaie de lui faire comprendre que les peines et les joies d'amour sont liées les unes aux autres par un charme doux et mystérieux. Mais je parle vainement, il ne me croit pas. Pourtant, à travers les larmes, le sourire peut briller, et quelquefois le sourire amène les larmes. » Elle regarda timidement son mari en souriant et pleurant, comme elle le disait, et le chevalier sentit soudain en son cœur l'ivresse des premiers temps d'amour. Ondine le comprit, et se serrant plus fort contre la poitrine d'Huldbrand, reprit. « Comme je ne puis réussir à persuader cet oncle, dont je redoute la tendresse, il m'a bien fallu, pour m'en débarrasser, lui enlever le moyen d'entrer ici. Le puits de la cour est le seul endroit par où il peut pénétrer au château, parce qu'un de ses amis qui en est le possesseur le laisse passer, tandis qu'il est brouillé avec tous les autres génies des puits, fontaines et cours d'eau de la région. Ce n'est que beaucoup plus loin vers le Danube qu'il retrouve son pouvoir. » Voilà pour quelle raison j'ai fait boucher le puits et tracer sur la pierre des signes magiques qui enlèvent tout pouvoir à cet oncle trop bien intentionné. Ces signes n'ont pas de puissance sur les hommes. Tu peux donc satisfaire le désir de Bertalda. Mais elle ne se doute pas de ce qu'elle exige. C'est à elle surtout qu'en veut Kühleborn. Mais si ce que mon oncle redoute et prédit arrivait, toi-même, mon bien-aimé, tu serais en danger. » Huldbrand, plein d'admiration pour la noble créature qui se privait volontairement d'un puissant protecteur et n'hésitait pas à encourir les reproches de Bertalda, la serra dans ses bras avec amour. « La pierre restera là où tu l'as fait mettre, dit-il, et tout sera réglé ici selon ta volonté, ma chère femme adorée. » Ravie d'entendre enfin les mots d'amour qu'elle attendait en vain depuis si longtemps, Ondine reprit, après avoir rendu au chevalier ses caresses. « Mon doux seigneur, j'oserais t'adresser une prière, puisque je te retrouve aimant et tendre. Songe, ami, à ce qui se passe parfois en été. Au milieu d'une journée radieuse, on voit soudain le ciel éclatant se couvrir de nuages, comme d'une couronne où brillent les éclairs ou gronde la foudre. C'est alors que l'été semble le roi, le dieu de la terre. Il en est de même pour toi. Lorsque je t'ai mécontenté, ta voix gronde et tes yeux lancent des éclairs. Tu me sembles encore plus beau et plus grand, mais ensuite je pleure. Je t'en supplie, évite de te montrer ainsi courroucé contre moi quand nous serons près d'un fleuve, d'une fontaine ou d'un lac. Mes parents reprendraient alors sur moi le droit qu'ils ont perdu et m'arracheraient à toi, indigné d'entendre offenser une des leurs. Ils m'obligeraient à vivre auprès d'eux, loin de toi, dans leur palais de cristal, et jamais plus on ne me permettrait de te revoir. Ou bien, si par malheur ils me renvoyaient vers toi, alors, ô mon bien-aimé, ce serait pour une mission effrayante. Sois doux et bon pour ta pauvre Ondine. Hélas! Si tu savais ce que causerait la perte de ton amour. » Huldbrand jura tendrement de faire ce que lui demandait sa femme, et d'éviter toute occasion de mécontenter ses parents. Les deux époux, remplis de tendresse comme au temps de leur amour, sortaient de leur appartement lorsqu'ils rencontrèrent Bertalda.
« Eh bien, » dit-elle d'un ton rogue et maussade, « il est fini, je pense, votre mystérieux entretien. Maintenant, je vais donner aux ouvriers, que je viens d'appeler, l'ordre d'enlever la pierre du puits. »
Le chevalier, outré de l'insolence de Bertalda, répondit sèchement « La pierre restera où elle est. » Les ouvriers se retirèrent, enchantés, en jetant des regards moqueurs sur la jeune fille, qui pâlit, serra les lèvres et regagna son appartement. À l'heure du dîner, on l'attendit en vain. Un valet chargé d'aller l'acquérir trouva la chambre déserte. Sur une table, un pli était disposé, adressé au sire de Ringstetten. Le serviteur le porta aussitôt à son maître, qui, ayant rompu le cachet, lut avec stupeur le message suivant. « J'avais oublié que je ne suis qu'une humble fille de pêcheur. Pardonnez-moi de m'en être souvenu si tard, et vivez heureux auprès de la belle Ondine. Je retourne à la chaumière paternelle. Adieu. » Ondine, désolée, pria son mari de courir à la recherche de la fugitive. Hélas, point n'était besoin de stimuler le zèle du chevalier chez qui venait de se réveiller l'ardent amour qu'il éprouvait pour Bertalda. Il parcourut fiévreusement le château, interrogeant tous les serviteurs, visitant toutes les chambres. Puis il sauta sur un cheval qu'on lui amenait. Au moment où il allait s'élancer dans la direction de la ville, un écuyer lui cria qu'il venait de rencontrer la jeune demoiselle sur le chemin de la Vallée Noire.
« Dans la Vallée Noire ? » gémit Ondine. « N'y va pas, Huldbrand ! Oh, n'y va pas ! Ou bien emmène-moi ! »
Ses cris se perdirent dans le vent. Le chevalier avait disparu sans entendre les supplications de sa femme. Ce que voyant, Ondine fit amener son blanc palefroid, bondit légèrement en selle et s'enfonça au galop à la poursuite du chevalier, après avoir défendu aux écuyers de l'accompagner. La Vallée Noire s'étendait fort loin du côté de la montagne. On la nommait ainsi à cause de l'obscurité qui régnait sous les grands arbres dont elle était entourée. Un ruisseau descendait d'une masse de rochers et promenait au milieu des terres ses eaux assombries par le reflet des hauts sapins de la forêt. À cette heure du crépuscule, le paysage prenait un aspect sauvage et fantastique. Le sire de Ringstetten galopait, partagé entre la crainte de ne pas rejoindre la jeune fille avant la nuit et celle de la dépasser sans l'apercevoir. Il se demandait, tout en suivant le ruisseau, s'il ne se trompait pas de chemin. Son cœur battait à se rompre à la pensée que Bertalda, si craintive, allait être perdue en pleine nuit, sous un ciel menaçant où grondait par moments la tempête. Soudain, il aperçut une forme blanche, et transporté de joie à la pensée de retrouver la jeune fille, il éperonna son coursier. Mais le noble animal se cabra violemment, refusant d'avancer dans la direction où l'engageait son maître, si bien que celui-ci, impatienté, sauta à terre et l'attacha à un arbre. Aussi bien, il lui eût été impossible de traverser à cheval les broussailles enchevêtrées. Les ronces lui déchiraient la figure, le tonnerre grondait de plus en plus fort. Le chevalier jetait des regards inquiets sur le pays étrange qu'il parcourait, tout en se hâtant vers la forme blanche qu'il distinguait de plus en plus nettement, étendue sur le sol. Il arriva tout près d'elle, en faisant craquer les branches et résonner ses éperons. Il appela « Bertalda ! Bertalda !» La jeune fille, immobile, ne répondit point. Alors il se pencha vers elle, cherchant à pénétrer l'obscurité pour reconnaître les traits aimés. Soudain, un éclair sillonna le ciel, éclairant une hideuse figure grimaçante, et une voix étouffée ricana « « Donne-moi un baiser, mon bel amoureux !» D'un bond, Huldbrand se rejeta en arrière avec un cri d'effroi. Mais la forme blanche se leva et le suivit en murmurant d'un ton menaçant « Va-t'en, va-t'en chez toi ! Les esprits veillent ! Si tu vas plus avant, tu seras ma proie !» et les longs bras blancs se tendaient d'un geste impérieux.
« Ah, maudit Kühleborn, c'est donc toi, je te reconnais. Tiens, le voilà, ton baiser !»
s'écria le sire de Ringstetten en reprenant son sang-froid. Il tira son épée et emporta un coup terrible sur la forme blanche qui disparut en une masse d'eau écumante dont le chevalier se trouva tout inondé.
« Ah, il veut m'empêcher de rejoindre Bertalda !» murmura-t-il, certain maintenant de l'identité de son adversaire. « Il s'imagine que la peur me fera reculer en abandonnant cette malheureuse enfant à sa vengeance. Mais je le vaincrai, cet esprit maudit. Il ne sait pas de quoi est capable un homme qui veut une chose de toutes les forces de son cœur. »
Huldbrand, plus décidé que jamais, continua sa marche. Cette fois, le succès couronna ses recherches. À peine arrivé à l'endroit où son cheval était attaché, il entendit un faible sanglot. S'élançant dans la direction d'où venait le bruit, il ne tarda pas à rejoindre Bertalda, éperdue, qui s'efforçait de gravir la colline pour fuir l'effrayante obscurité de la vallée. La jeune fille avait perdu toute sa fierté et son arrogance. Tout au bonheur de ne plus se sentir seule dans cette nuit terrible, elle n'essaya point d'échapper à celui qui venait la chercher et le suivit sans résistance. Comme elle était épuisée de terreur et de fatigue, le sire de Ringstetten voulut la faire monter sur son cheval. Mais l'animal se cabra si furieusement que la jeune fille, tremblante, ne put se tenir en selle. Huldbrand, tirant son cheval d'une main, soutenant de l'autre Bertalda, tenta de rentrer à pied. Au bout de quelques pas, il y fallut renoncer. La fugitive venait d'éprouver une telle frayeur en apercevant de loin Kühleborn que ses forces la trahirent. Elle roula sur le sol en murmurant « Laissez-moi, noble chevalier, je suis punie en cet instant de mes folies. Je dois mourir ici. » « Jamais je ne vous abandonnerai, mon ami !» s'écria Huldbrand, tout en s'efforçant de maîtriser son cheval qui s'emportait, ruait avec une fureur croissante. Craignant que l'animal ne blessât Bertalda, il voulut l'éloigner en le tirant par la bride, mais la jeune fille, folle d'angoisse, le rappela d'une voix désespérée en le suppliant de rester auprès d'elle. Le chevalier eût voulu courir auprès de son ami, mais il n'osait lâcher la bride de son cheval, redoutant de le voir s'élancer sur l'endroit où gisait Bertalda. Dans cet extrême embarras, quelle ne fut pas sa joie d'entendre le bruit d'une voiture qui se dirigeait sur eux. Il la héla aussitôt, une voix d'homme répondit. Quelques instants plus tard, une grande carriole recouverte d'une toile blanche s'arrêta devant les voyageurs. Sautant à bas de son siège, le conducteur s'approcha du cheval écumant et dit « Je sais ce qu'il y a. La première fois que j'ai traversé cette vallée, pareille chose est arrivée à mes bêtes. C'est un méchant génie habitant ces contrées qui s'amuse à l'exciter. Heureusement, je connais le moyen d'apaiser votre cheval. Je n'ai qu'à lui glisser un mot à l'oreille. Vous allez voir les fées. » « c'est bon, dépêchez-vous, » ordonna le chevalier. Le charretier s'approcha de l'oreille de l'animal en furie, lui dit un mot à voix basse, et aussitôt le cheval se calma. Huldbrand ne s'attarda pas à demander des explications. Il accepta la proposition du conducteur, qui offrait de prendre Bertalda dans sa voiture, où on l'étendrait confortablement sur des ballots de coton. « Montez à côté d'elle, » ajouta l'homme. « J'aurai bientôt fait de vous ramener à Ringstetten. » Huldbrand attacha sa monture derrière la carriole et prit place à côté de la jeune fille, tandis que le charretier guidait l'attelage. L'orage s'éloignait. Dans le silence d'une nuit apaisée, les deux voyageurs, rassurés, causaient avec abandon. Huldbrand reprocha tendrement à Bertalda sa fuite précipitée. Elle, émue, s'excusait humblement, et chacune de ses paroles pénétrait au cœur de celui qui l'aimait. Il répondait d'une voix passionnée lorsque la voix du conducteur résonna dans la nuit. « Hola, mes chevaux, levez les pieds, encore un effort, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hardi !» Le sire de Ringstetten, troublé, tressaillit, et se penchant vivement hors de la voiture, vit avec terreur que les chevaux s'avançaient péniblement au milieu d'une eau bouillonnante dans laquelle ils semblaient nager. Les roues de la voiture tournaient comme celles d'un moulin. Le charretier s'était installé sur le toit de la carriole.
« Ah ça, quel chemin prends-tu ? » cria le chevalier.
« Ne vois-tu donc pas que tu nous conduis au beau milieu de la rivière ?»«
Non pas !» répondit l'homme en éclatant de rire. « C'est justement le contraire. Voyez-vous-même, les eaux marchant sur nous, envahissant tout. »
Et en effet, la vallée tout entière disparaissait sous un flot montant. Les vagues s'agitaient en grondant.
« C'est encore ce misérable que le borgne qui s'acharne contre nous. Il doit chercher à nous noyer. Mais tu sais probablement une formule contre ces maléfices. »
« Bien sûr, j'en sais une, mais je ne veux pas l'employer avant que vous ne sachiez mon nom. »
« Le moment est mal choisi pour nous le faire connaître. Ces flots montent sans cesse. Que m'importe ton nom ?»«
Il t'importe plus que tu ne le crois, chevalier. Je m'appelle Kullborn. »
Comme il achevait ces mots, la voiture soudain disparut, se changeant en un tourbillon d'écume. Les chevaux s'évanouirent d'eux-mêmes, tandis que le charretier se courbait et se fondait à son tour en une vague gigantesque qui s'abattit sur les deux voyageurs. Ceux-ci, d'un effort vigoureux, revinrent à la surface, cherchant à nager, mais de hautes vagues accouraient sur eux. Ils allaient être submergés, quand une voix douce domina tout à coup la tempête. À la lueur pâle de la lune, on vit apparaître Ondine sur le faîte de la colline. Elle parlait au flot déchaîné, sur un ton de prière et de menace. Aussitôt, la plus haute des vagues s'enfuit en murmurant. À sa suite, l'immense nappe d'eau disparut rapidement. Ondine accourut, tendit la main à Hildebrand et à Bertalda, et les conduisit dans une prairie où elle leur prodigua les soins les plus tendres. Quand ils eurent repris leurs forces, elle aida la jeune fille à monter sur le cheval, et tous trois rentrèrent en silence à Ringstetten.